Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.
Et dans cette émission des pionniers de la ville durable, cette semaine nous accueillons Valérie David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice développement durable et innovation transverse chez Eiffage. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours et également ce que fait votre entreprise pour le développement durable déjà?
Ok, vous avez la journée? Non, je plaisante. Alors, tout d'abord, la direction développement durable et innovation transverse, c'est une direction expérimentale qui est directement rattachée au PDG, qui compte une petite trentaine de collaborateurs avec des profils très variés, pluridisciplinaires, des expériences également variées. Et l'objectif, c'est de réinterroger ce qui paraît évident, notamment en matière de solutions développement durable, que ce soit sur les deux thèmes qui nous tiennent à cœur, la transition vers une économie bas carbone et la préservation de la biodiversité. Ça veut dire qu'on a aussi bien des ingénieurs des ponts que des écologues, que des géographes, que des gens qui ont fait davantage urbanisme, sciences politiques, etc. École de commerce même. On a vraiment des profils extrêmement variés. L'objectif qui est le nôtre, c'est de passer d'une activité qui est maîtrise nette de gaz à effet de serre. Je vous rappelle qu'en 2017, les émissions de gaz à effet de serre dans notre pays sont reparties à la hausse, avec deux secteurs économiques qui sont pointés du doigt, les transports et le bâtiment. Alors il y a tout un tas de raisons à cela, hein, on n'est pas les seuls et bon, on pourra en parler aussi longtemps. Il n'empêche que ça ne peut pas durer. Je vous rappelle que les climatologues nous donnent 15 ans pour inverser la tendance de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans nos pays et qu'il n'y a pas de frontières dans ce domaine. Donc toutes les émissions dans le monde entier finissent par accroître notre dette écologique, et que si on veut faire des choses, et on peut faire des choses, c'est quand même la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on a des solutions. Ces solutions, elles sont pour l'instant encore trop peu mises en œuvre. J'ai tendance à dire que même parfois elles sont trop confidentielles. Pour autant, elles existent. Et j'ai même tendance à dire que c'est à ça qu'il faut se raccrocher.
Mais Eiffage est un vrai pionnier, comme on peut le dire dans cette émission du développement durable, puisque vous êtes l'une des entreprises qui fait déjà le plus de choses de ce côté-là.
Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui font des choses, déjà. Alors, le plus ou moins, c'est difficile. Et moi, j'ai tendance à dire que la situation est suffisamment urgente pour que tous les plus soient bons à prendre. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que c'est depuis 2007 que nous avons un laboratoire de prospective en développement urbain durable qui s'appelle Phosphore, et que Phosphore a essayé d'imaginer la ville de demain qui serait une ville totalement bas carbone. On avait entièrement raison dans nos prospectives Phosphore, qui sont d'ailleurs mises en œuvre aujourd'hui sur deux écoquartiers, un écoquartier à Marseille qui s'appelle Smartseille et un écoquartier en région parisienne en cours de conception-construction qui s'appelle La Vallée, sur l'ancien site de l'école centrale. Mais on avait tort sur un point. C'est qu'on imaginait que le besoin de villes durables bas carbone, ça serait pour 2030. Le premier appel d'offres carbone neutre qui est sorti en France, c'est mars 2019, c'est le village olympique. Donc en fait, on avait raison sur les tendances et les pistes de recherche et développement qu'il fallait suivre et que nous avons suivies. Nous avions tort sur la chronologie, puisque en fait, les besoins sont arrivés encore plus vite que ce que nous imaginions.
Et qu'est-ce que vous mettez déjà en place qu'est-ce que vous allez mettre en place du coup du côté d'Eiffage pour essayer ça?
La première chose, bien évidemment, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Donc c'est la mesure. Nous avons cartographié tout notre modèle de valeur. Donc en entrée de chaîne de valeur, les matériaux carbo-intensifs dont nous sommes dépendants, les énergies fossiles dont nous sommes encore partiellement dépendants, même si on a fait beaucoup de progrès et d'efforts. Aujourd'hui, ce qu'on cherche principalement à faire, c'est adjoindre à l'efficacité énergétique la substitution par des énergies renouvelables ou par des matériaux non émissifs, tout ce qui fait encore aujourd'hui le quotidien en général du BTP, le ciment, le béton, le verre, l'aluminium. Ensuite, en milieu de chaîne de valeur, c'est ce qu'on appelle les process, c'est la façon dont nous travaillons, comment on peut être plus efficace, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle une intensité carbone faible. Enfin, non, pas faible, une intensité carbone qui fasse que pour 1 gramme de CO2 émis, on est davantage d'unités produites. Ensuite, en bout de chaîne de valeur, il y a la façon aussi dont nous emparons des nouveaux marchés. Vous vous doutez bien qu'en interne, pour convaincre les directeurs financiers et directeurs du développement, je mets en avant le marché des bâtiments à énergie positive, l'économie circulaire qui permet de faire de béton ancien une nouvelle matière première après recarbonatation, donc après stockage de carbone, ou bien tous les métiers des énergies renouvelables qui sont de plus en plus performants et qui fonctionnent le mieux en bouquet. Il y a rarement une seule énergie renouvelable, il y a souvent un panel d'énergies renouvelables qui ne sont plus des énergies d'appoint, comme ça a été longtemps le cas. Si vous prenez le cas de SmartSeil, aujourd'hui on a 70% d'apport d'énergie renouvelable sur SmartSeil avec une boucle dite de thalassothermie, c'est-à-dire une boucle qui va chercher dans la mer en boucle fermée, donc pas de risque de pollution, toute l'année à 14 degrés, des frigories l'été, des calories l'hiver. Donc voilà le genre de solutions qui ne sont pas d'ailleurs super coûteuses, si je puis dire. Voyez, là on arrive à être à l'équilibre avec un écoquartier de 4000 habitants. Donc on peut même imaginer que sur toutes les villes littorales dans le monde, notamment les villes africaines ou sud-américaines, qui souffrent beaucoup de pics de chaleur, eh bien on puisse recourir gratuitement aux frigories de la mer pour éviter les systèmes de climatisation énergivores et très polluants en fin de vie. Donc en fait, j'aurais du mal à vous lister de façon exhaustive, parce que les solutions, elles arrivent tous les jours. J'ai tendance à dire que l'élément principal d'optimisme, parce que bon, je ne vais pas vous proposer qu'on se jette tous par la fenêtre, hein, l'élément principal d'optimisme, il est dans l'intelligence collective et dans le fait qu'il y ait de plus en plus de démonstrateurs qui permettent de surmonter les obstacles du scepticisme ou du surinvestissement. Si l'innovation est trop chère, elle devient un luxe, et notre objectif, c'est de faire ce qu'on appelle, nous, de la low-tech, just-tech, c'est-à-dire de proposer des technologies qui sont facilement duplicables et qui ne nécessitent pas un investissement trop lourd, parce que l'objectif sur ces 15 ans, c'est trouver des solutions, mais trouver des solutions pour tout le monde aussi. Si on laisse trop de gens sur le bord de la route, on risque d'avoir des problèmes géopolitiques bien plus graves que ce qu'on connaît aujourd'hui ou ce qu'on pressent aujourd'hui.
Et vous proposez du coup un calcul à l'économie de gaz à effet de serre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez à vos clients ?
Les autorités publiques ont rendu obligatoire depuis 2015 la publication des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, ce que nous faisons depuis 2008 d'ailleurs. Ce bilan des émissions de gaz à effet de serre est déjà un premier pas, c'est intéressant. Mais ça ne concerne que les gaz à effet de serre que vous émettez pour réaliser vos activités. Par exemple, l'énergie dont vous avez besoin pour chauffer vos bâtiments dans lesquels vos salariés travaillent. Ou bien la flotte de véhicules de fonction pour vos cadres. Ou bien le fuel des engins de chantier. Bon, tout ça est très important. Mais j'ai tendance à... Alors, on le réduit, mais quelque part, cette réduction... Il y a une carotte importante, c'est que vous réduisez vos frais généraux. Donc en général, toutes les entreprises le font sans rechigner. Ce qui est peut-être beaucoup plus stratégique, c'est de mesurer le gaz à effet de serre que vous n'émettrez pas grâce à une offre qualitative, vertueuse et pionnière. C'est ça qui est intéressant. Et en préparant cette émission, je vous disais qu'on se comparait un peu à des médecins. Si votre médecin vient visiter ses patients à vélo, c'est bien, c'est un médecin responsable. S'il sauve des vies, c'est un médecin compétent. Donc nous, on essaie d'être responsable et compétent. On essaie d'être exemplaire sur nos propres émissions, sur notre périmètre interne, et d'être aussi porteur de solutions pour l'avenir, et enfin, j'ai même tendance à dire pour maintenant, en matière de villes et infrastructures durables, d'économie circulaire, d'énergie renouvelable, de matériaux non émissifs. Je vais vous donner un exemple concret. Nos collègues de la route ont imaginé un brevet. On n'est pas les seuls, encore une fois, tous les plus sont bons à prendre, pour faire une route 100% recyclée. En général, on savait déjà le faire. On casse les agrégats, on les nettoie, on les recycle et on les remet en place. Ça économise déjà des granulats neufs issus de carrière, c'est très bien. L'innovation la plus intéressante que j'ai eue à traiter cette année, c'est Recital. C'est une innovation qui va chercher les résidus de l'industrie papetière du craft, du papier carton et du papier craft, qui est un résidu à base de pain et qui est extrêmement collant. Et donc, on l'a mis en place parce qu'en fait, le bitume, pourquoi on s'en sert? Pour coller les granulats entre eux, ni plus ni moins. On l'a mis en place déjà sur 4 chantiers dans l'Hérault, en Gironde et dans le Jura. Les résultats sont exceptionnels. Et cette route 100% recyclée, sans bitume neuf, sans aucun bitume, c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a un produit routier qui a le label biosourcé par le ministère, elle est 10% moins chère qu'une route neuve. Et elle émet 70% de gaz à effet de serre de moins qu'une route neuve. Donc vous voyez également que non seulement il y a des solutions, mais que ces solutions ne sont pas systématiquement plus coûteuses non plus qu'une solution standard réglementaire.
Et le point qui m'a surpris du coup en préparant cette émission avec vous, c'est que le développement durable est dans toutes les sphères chez vous, puisque même le PDG a ses variables qui jouent par rapport au développement durable et à ce que vous faites.
Alors oui, vous avez entièrement raison et on en est très fiers, parce que c'est la première fois dans le BTP français qu'un président directeur général accepte que sa rémunération variable soit impactée par deux résultats essentiels, des résultats de nature sociale qui sont les taux d'accidents du travail dans nos différentes branches opérationnelles, avec un objectif à 6 de taux de fréquence, et je peux vous dire que c'est très faible. Et puis, un indicateur d'évitement de carbone, c'est-à-dire qu'on va systématiquement comparer les offres gagnées À chaque fois que nous gagnons une offre auprès d'un client, nous allons regarder ce qu'il a choisi. Est-ce qu'il a choisi ? Est-ce que nous avons réussi à lui faire choisir en prix, en explication, en pédagogie, une offre bas carbone ? Ou est-ce que c'est une offre classique standard carbonée qui a gagné ? Donc, chaque branche aura des objectifs en matière d'offres bas carbone. Et c'est l'atteinte de ces objectifs cumulés en termes d'émissions de gaz à effet de serre non émises qui permettra d'octroyer 100% du variable à notre PDG. Et ça, c'est très nouveau parce que le levier managérial est activé. On voit bien que les solutions existent, on voit bien que la technique est là. C'est plus la culture, les méthodes managériales, les méthodes commerciales qu'il faut changer aujourd'hui.
Merci Valérie David d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice développement durable et innovation transverse chez Eiffage. Merci d'être venue au micro de Bâti Radio pour cette émission de Pionniers
Merci à
de la ville durable.
Les Pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.